Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'intervention française en Libye ou comment l'espérance de conduire une guerre juste a mené un pays au chaos. La charte de l'ONU, signée le 26 juin 1945, préconise le règlement pacifique des tensions internationales et défend la non-ingérence dans les affaires des États souverains. Pourtant, depuis 70 ans, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a cessé d'autoriser le recours à la guerre. Car si l'ONU ne doit pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État, elle a également la responsabilité de protéger les populations et les droits de l'homme. Cette responsabilité est l'héritière du droit dit d'ingérence humanitaire. C'est sur les fondements de cette responsabilité de protéger, précisément, qu'une coalition formée par des pays membres de l'OTAN et de la Ligue arabe, menée par la France de Nicolas Sarkozy, intervient à partir de mars 2011 en Libye. Pendant 7 mois, 18 pays mènent une guerre aérienne, maritime et terrestre sur le pays de Kadhafi. Mais l'action humanitaire était-elle le seul mobile des puissances en jeu? L'intervention n'a-t-elle pas dépassé ses objectifs de défense des civils? Et puis, quel rôle ont joué la France, son président Nicolas Sarkozy et son insolite messager Bernard-Henri Lévy? Retour sur une intervention controversée aux conséquences terriblement actuelles. Notre invité aujourd'hui, Jean-Christophe Notin, écrivain et historien, auteur de La vérité sur notre guerre en Libye, publié en 2012 chez Fayard. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillard, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Hélène Vizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Décembre 2007, le président français reçoit à Paris Muammar Kadhafi, dictateur, preneur d'otages, terroriste, accompagné d'une délégation de 400 personnes et logeant dans sa tente bédouine. La diplomatie française privilégie alors la stabilité du monde arabe plutôt que son caractère démocratique. Elle soutient des régimes autoritaires comme ceux de Kadhafi en Libye, Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Égypte. Alors que Kadhafi, commanditaire de l'attentat du DC-10 du Téhéran en 1989 qui coûta la vie à 170 passagers, parade dans la capitale, on s'offusque de cet accueil en grande pompe. Et puis le temps passe et on oublie. On oublie aussi les contrats signés entre Kadhafi et des entreprises françaises, parfois aux dépens des libertés du peuple libyen. De 2007 à 2011, Amesis, une société de services en ingénierie informatique, profite du rapprochement diplomatique entre la France et la Libye pour vendre à Kadhafi des technologies de surveillance des télécommunications que le dictateur utilise ensuite pour traquer ses opposants, comme l'explique le président de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme sur France 3.
Peut-on vendre n'importe quelle technologie au pays dirigé par des dictateurs? C'est un peu la question posée par la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme. Elle a déposé plainte contre une société française, filiale de Bull, qui avait vendu du matériel de surveillance au régime de Kadhafi. C'était en 2007, quand la France déroulait le tapis rouge au leader libyen, Luc Laguin-Boucher, Ralida Outaï.
Amesis s'est rendu complice de ce système qui a été mis en place, puisque c'est grâce à ce moyen très sophistiqué qui était donné aux autorités libyennes par une société française informatisée très performante que l'on a pu pratiquer donc torture, mauvais traitement.
Janvier 2011, le printemps arabe enflamme le sud de la Méditerranée. Les populations, frappées par le chômage et lassées des dictatures, réclament le départ de leurs dirigeants et une transition démocratique. Surprise de cet embrasement soudain, la France sous-estime l'ampleur du mouvement. Alors que la presse elle-même évoque de banals troubles sociaux, la ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, propose de faire bénéficier le gouvernement tunisien du savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre. Trois jours après cette proposition qui aujourd'hui choque encore, le 14 janvier 2011, Ben Ali est contraint de quitter la Tunisie pour ne plus y revenir. Et c'est une prise de conscience pour la France. La diplomatie, déconcertée par un mouvement qu'elle n'attendait pas, a fait fausse route, gravement. Michel Alliomari démissionne le 27 janvier. Paris change de stratégie vis-à-vis du monde arabe. Il s'agit désormais de jouer un rôle actif dans la défense de la démocratie et de faire oublier les hésitations du pays face aux soulèvements tunisiens et égyptiens. La stabilité ne peut plus être l'alpha et l'oméga de la diplomatie française, explique ainsi Alain Juppé, le nouveau ministre du Quai d'Orsay, quitte à renier subitement les accointances diplomatiques de la France. Alors que Kadhafi réprime durement les soulèvements qui éclatent en Libye, Nicolas Sarkozy appelle le colonel, son meilleur ennemi, à quitter le pouvoir et sans délai.
S'agissant de la France, notre position est claire. Monsieur Kadhafi doit partir. Les violences répétées, systématiques, contre le peuple libyen sont inacceptables et feront l'objet d'enquêtes et de sanctions.
Le 13 janvier 2011, la veille de la chute du président Ben Ali en Tunisie, des manifestations ont lieu en Libye, sur le modèle tunisien justement. Muammar Kadhafi, le guide de la révolution de la Jamaïria arabe libyenne au pouvoir depuis 42 ans, contient la révolte. Jusqu'à ce 15 février 2011, pour la première fois depuis le début des manifestations du peuple libyen, la police ne se contente pas des habituels canons à eau et gaz lacrymogène. À Benghazi et à El Beida, les milices tirent sur des manifestants à balles réelles. Bilan, 4 morts et des dizaines de blessés. 3 jours plus tard, alors que la répression se durcit, c'est l'insurrection, Benghazi s'embrase. Les manifestants armés, soutenus par une partie de la police qui s'est ralliée à leur cause, s'emparent de la ville. Les jours suivants, l'insurrection s'étend dans tout le pays. Tobrouk, Misrata, Tarnoua ou encore Souara tombent aux mains des manifestants. Le 21 février, les insurgés atteignent Tripoli, la capitale où vit le colonel Kadhafi. Alors que 2/3 des villes libyennes sont aux mains de l'opposition, des caciques du régime, hauts fonctionnaires, généraux, diplomates, se rallient au mouvement. Le ministre de la Justice de Kadhafi, Mustafa Mohamed Abdeljalil, démissionne. En moins d'une semaine, le guide perd le contrôle, l'insurrection populaire devient révolution nationale. La réponse du régime est sans appel, la répression par le sang. Le fils du colonel, Saif al-Islam, s'exprime à la télé officielle dans la nuit du 20 au 21 février 2011.
Maintenant, nous exigeons comme solution, comme dernière solution, avant qu'il ne soit trop tard, de nous en remettre tous aux armes. Nous allons armer 5 millions de Libyens. La Libye n'est ni la Tunisie ni l'Égypte. Mes frères, nous sommes des tribus et des clans. Nous allons nous en remettre tous aux armes. Et les armes maintenant sont à la portée de tous. Au lieu de pleurer 84 morts, nous allons pleurer des centaines de milliers de morts. Il y aura des fleuves de sang dans toutes les villes de Libye. La situation est très grave. Il est très dangereux que nous, peuple libyen, que notre jeunesse se mette en tête d'imiter ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie.
Aussitôt dit, aussitôt fait, Muammar Kadhafi, sorte de Néron des temps modernes, fait effectivement couler le sang. Le colonel massacre son peuple et la Libye sombre dans la guerre civile. Les organisations internationales dénombrent des centaines de morts, tandis que des milliers de Libyens sont contraints de quitter le pays pour échapper au combat. Face aux milices de Kadhafi et aux armes lourdes que le dictateur déploie contre les rebelles faiblissent. Oui, trop peu armés, mal organisés, ils reculent face à la contre-offensive loyaliste et commencent à perdre des villes. L'équipe de France 3 assiste à la débâcle des rebelles à Ras Lanouf.
Là-bas, c'est l'hécatombe. Les insurgés sont impuissants face aux bombes des forces de Muammar Kadhafi. Les militaires qui ont rejoint la rébellion n'ont pas d'autre choix que le repli. C'est la débâcle.
À Ras Lanouf, les forces de Kadhafi viennent de bombarder la mosquée. Et l'hôpital aussi.
Soudain, un bruit sourd dans le ciel, un avion de chasse nous survole.
Ok, go.
Nous nous éloignons de la foule pour nous mettre à l'écart, un peu plus loin.
Depuis ce matin, les avions Sukhoi nous ont bombardé 6 ou 7 fois. Ils tirent aussi des missiles de leurs bateaux au large.
Les insurgés rechargent leurs armes et scrutent le ciel, en espérant un embargo aérien, leur seule chance.
la joie. Il est le même. Thora, Thora.
Les menaces proférées à la télé par le clan Kadhafi, mises à exécution, s'adressent aux insurgés, bien sûr, mais aussi aux Occidentaux. S'ils ne soutiennent pas le régime des guides, ils en feront les frais. La France, l'Union européenne et les États-Unis le savent. Bien qu'ils soutiennent les aspirations des Libyens, ils n'ont pas encore adopté de vraies politiques d'aide à la transition démocratique. Quant à la répression, elle est condamnée, mais pas sanctionnée. Une intervention occidentale est d'autant plus problématique que la situation en Libye est obscure. Car qui sont ces rebelles? Quelle est la nature de l'insurrection? S'agit-il vraiment d'un mouvement national dans un pays divisé en plusieurs tribus? Comment aider l'opposition? Face aux flottements occidentaux, un homme va trancher. Cet homme, c'est Nicolas Sarkozy. Le président de la République française veut intervenir pour protéger le peuple libyen et défendre la démocratie. Mais comment aider l'opposition sans savoir qui l'amène? Le 4 mars, il reçoit un coup de téléphone qui tombe à point nommé. Au bout du fil, Bernard-Henri Lévy, l'intellectuel et essayiste, qui se fait diplomate. Il propose à Nicolas Sarkozy de recevoir Mahmoud Djibril, le numéro 2 du Conseil national de transition, créé le 27 février, pour conduire le combat contre le régime de Kadhafi. L'issue de cette rencontre, quelques jours plus tard à peine, est pour le moins inattendue, tant la décision est rapide. La France reconnaît en effet le CNT comme l'unique représentant légitime du peuple libyen. Surprise, il s'agit désormais de défendre un camp, celui du Conseil national de transition, contre un autre. Tripoli suspend sur le champ ses relations diplomatiques avec la France. Lors d'une conférence de presse le 11 mars, Nicolas Sarkozy va plus loin. Il l'affirme, il préférerait un mandat de l'ONU, oui, mais une intervention française indépendante est possible. Le président français prend le dossier à cœur. Muammar Kadhafi et son fils le dérangent personnellement. En ce mois de mars 2011, il porte des accusations gênantes. Le régime libyen aurait financé la campagne du candidat Sarkozy lors de la présidentielle de 2007. Le chef de l'État français se montre vindicatif envers son ancien allié. Il veut le mettre à genoux, lui faire mordre la poussière. C'est en tout cas ce qu'il déclare en off à des journalistes du Monde. L'opinion publique française appuie l'intervention voulue par son président et par Bernard-Henri Lévy qui défend une guerre juste dans les médias. Voilà ce qu'il explique à Patrick Simonin sur TV5 Monde.
Le fils de Kadhafi insulte le président de la République française en disant qu'il a financé sa campagne électorale ou ce genre de choses.
Il insulte le président de la République française. Demain, il insultera le monde entier. Je vous répète, on a affaire à des bouffons sanglants, à des gangsters. Il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est impensable après ce qui s'est passé. C'est ça. Il faut inverser le raisonnement. C'est pas est-ce que Kadhafi va reprendre le pouvoir. C'est quel serait le prix de la reprise de pouvoir par Kadhafi. Il y a déjà eu à Misrata, il y a déjà eu à Zawiya, il y a déjà eu dans d'autres villes de Libye des crimes contre l'humanité. Vous savez, quand on fait donner des avions de chasse contre des manifestants, comme Kadhafi l'a fait à Tripoli, on est clairement dans des crimes justiciables de la Cour pénale internationale de la Haye.
Face aux exactions de Kadhafi relayées par les médias, l'intervention semble chaque jour plus urgente. Bombardements indiscriminés, mercenaires étrangers embauchés pour réprimer le peuple, Viagra offert aux soldats pour faciliter les viols, des faits qui ne sont pas toujours vérifiés, comme le révélera Amnesty International. Tandis que le Conseil national de transition libyen fait état de 6000 morts, Human Rights Watch en compte 300. Un chiffre qui, pour autant, ne remet pas en question la souffrance des Libyens face à la répression, mais qui pose des questions. Une intervention militaire n'est-elle pas précipitée? Quelques rares voix émettent des doutes. Ronny Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, regrette par exemple qu'on ne tire pas les leçons des échecs du passé, comme il explique au micro de Pascal Clark sur France Inter.
Ce qui me gêne dans cette opération, c'est que on prétend installer la démocratie et l'état de droit avec des bombardiers. Je ne sais pas où cette idée a été puisée, mais ce que je vois, c'est que chaque fois qu'on a essayé de le faire, non seulement on a échoué, mais le remède qu'on prétendait apporter était pire que le mal.
Il y avait quand même une urgence, Ronny Broman, Benghazi menaçait de tomber, une question de jours, peut-être même d'heures, et Benghazi qui tombait, c'était fini, c'était l'insurrection, ça en était fini de l'insurrection, et c'était la répression offerte à Kadhafi. Ça vous parle pas, ça c'est pas un argument qui peut vous faire changer d'avis.
Non, ça ne me fait absolument pas changer d'avis, parce que des interventions destinées à prévenir des massacres, j'en ai vu d'autres, elles ont gelé la situation, et les massacres qui se sont produits ultérieurement ont été pires. Donc je n'achète pas cet argument. Je pense qu'il s'agit là d'une facilité de vente, mais que la réalité est beaucoup plus complexe. Regardez ce que nous avons fait en Somalie, par exemple, en 92. Nous sommes en 2011, la situation n'a pas changé, et même d'une certaine manière, elle s'est empirée.
Malgré ces remises en cause, les Français, dans leur grande majorité, se rallient à l'idée d'une intervention. D'autant plus que la France trouve rapidement son premier allié, le Royaume-Uni de David Cameron, qui se dit prêt à soutenir son action en Libye. Obama, déjà engagé en Afghanistan et en Irak, lui, est plus que réticent. Mais l'avancée des troupes de Kadhafi sur Benghazi est telle qu'un massacre de grande ampleur semble imminent. Alors, les États-Unis finissent par apporter leur soutien au duo franco-britannique, sans pour autant prendre le leadership. Pour ne pas transformer l'intervention militaire en croisade contre un pays arabe, la France en appelle au Qatar, solide allié de Nicolas Sarkozy. Alors que l'Union africaine refuse toute forme d'intervention étrangère, la Ligue arabe apporte son soutien à la naissante coalition occidentale et demande la mise en place d'une no-fly zone au-dessus du pays. Cet ultime appui achève de convaincre l'ONU de la nécessité d'un vote concernant une intervention en Libye. Ce vote, tant attendu par Sarkozy, a finalement lieu le 17 mars 2011. Seuls l'Allemagne, la Russie, la Chine, le Brésil et l'Inde s'abstiennent, permettant ainsi à l'ONU de donner son aval à la mise sur pied d'une zone d'exclusion aérienne. Afin de protéger les civils d'attaques systématiques et généralisées, les avions de Kadhafi ne pourront plus voler dans le ciel de Libye, tandis que la coalition est appelée à renforcer les sanctions déjà adoptées, notamment l'embargo sur les armes et le gel des avoirs du clan Kadhafi. Enfin et surtout, le Conseil de sécurité de l'ONU ajoute à la résolution 1973 une clause non prévue par les alliés arabes de la coalition. Elle autorise ses membres à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de ces décisions. Les Nations Unies, comme en Irak en 1991 ou en Afghanistan en 2001, choisissent la guerre pour assurer la paix. Du vote des Nations Unies le 18 mars 2011, Muammar Kadhafi décrète un cessez-le-feu immédiat. Le dictateur affirme vouloir se conformer aux exigences de l'ONU. Pourtant, sur le territoire libyen, les attaques des forces fidèles à Kadhafi se poursuivent. C'est ce que filme Mohamed Narbous, un blogueur libyen, quand il est abattu par un sniper le 19 mars. Les images sont retransmises en direct sur sa chaîne de télévision indépendante Libya Al-Hurra, la Libye libre.
Je suis actuellement au milieu d'une fusillade. Il y a énormément de tirs, beaucoup trop. Où est le tireur? Il doit être là-haut. Mais où est-il?
Ultime témoignage. Mohamed tombe sous les balles.
La réaction de Paris ne se fait pas attendre. Ce 19 mars 2011, l'intervention est lancée par la France. Des rafales et des mirages décollent de la base militaire de Saint-Dizier, direction l'Est libyen. Le nom de l'opération, l'Harmattan, du nom de ce vent puissant venu du désert. L'armée française, suivie par ses alliés, s'engage en mer et dans le ciel. Frégates, avions, hélicoptères s'adonnent sans relâche à leur mission, clouer au sol l'aviation libyenne, détruire les systèmes de défense antiaérienne, couper les communications des forces de Kadhafi et entraver leurs déplacements. La première phase de frappe aérienne est un succès. Les forces loyalistes n'avancent plus vers Benghazi, le fief des insurgés. La ville se pare alors de drapeaux tricolores pour fêter cette première victoire, comme le remarquent les reporters du JTTF1.
À partir de 8h du matin, ça ne désemplit pas. Et certains l'ont déjà baptisé le jardin français. Parce que c'est là, disent-ils, que les premiers avions français ont réduit en bouillie à 10 km au sud de Benghazi les chars de Kadhafi. C'est devenu un lieu de promenade à la fois pour exorciser sa peur et admirer la précision des frappes. On en profite pour prendre quelques souvenirs et récupérer quelques pièces qui pourront toujours servir. À ce rythme-là d'ailleurs, très vite, il n'en restera plus grand-chose. Les Benghazi qui décidément se sont mis à l'heure française, car les manifs quasi quotidiennes qui honorent les pays venus les sauver, États-Unis, Angleterre et surtout France, arborent à côté du vert, du noir et du rouge de la révolte, le bleu-blanc-rouge assez peu fréquent sous ces latitudes. Sans parler de quelques messages plus personnels, même si l'orthographe laisse encore un peu à désirer.
Et surtout, s'il veut vraiment nous protéger, il faut qu'il continue à les frapper.
Continuer à frapper, c'est bien ce qu'on compte faire, la coalition qui veut aller vite et fort. Dépôts de munitions, chars et véhicules militaires, centres de communication radar, ils multiplient les attaques. Mais Kadhafi est prêt à poursuivre le combat, longtemps, s'il le faut. Ses troupes résistent et reprennent d'ailleurs plusieurs villes dans l'ouest du pays. L'appui aérien de la coalition ne donne pas le coup de pouce décisif attendu par les troupes rebelles au sol. La logistique et l'organisation pêchent, car les insurgés libyens ne sont pas des militaires professionnels. La coalition s'affaiblit, on doute de l'issue de l'affrontement. Et s'il durait plus longtemps que prévu, et si l'intervention occidentale échouait? En France, l'opinion publique se désolidarise progressivement de son président. Devant l'absence d'avancées concrètes, les Français craignent l'enlisement des troupes en Libye. Alors que les frappes de la coalition se poursuivent, Nicolas Sarkozy entame un volte-face diplomatique discret. Une alternative se profile en effet, des élections organisées par le régime de Kadhafi. Le ministre de la Défense français, Gérard Longuet, émet même une hypothèse surprenante. Le départ du dictateur ne serait plus un préalable aussi strict qu'auparavant. Sur BFM TV, il déclare que Kadhafi pourrait rester à Tripoli dans une autre chambre de son palais avec un autre titre. Mais les négociations n'aboutissent pas, car en réalité Kadhafi n'est pas prêt à arrêter les combats. Il veut seulement gagner du temps en nourrissant l'illusion d'une solution diplomatique. L'issue sera militaire ou ne sera pas. Tripoli, où se cache le dictateur, devient l'emblème des difficultés de la coalition et la clé de voûte d'une éventuelle victoire. Si la ville tombe, c'est la capitale, c'est le régime qui tombe. Avec les rebelles, les généraux français concentrent tous leurs efforts sur cette ville. Le Qatar apporte financement et aide logistique. Il fait transiter les armes françaises vers les montagnes de Nefoussa, pivot de la stratégie française. Le 20 août 2011, les Français donnent le feu vert à la prise de Tripoli, où se trouve encore Kadhafi. C'est le dernier espoir de décapiter le régime. Les milices insurgées, accompagnées par les forces spéciales de plusieurs pays, dont le Qatar, investissent la capitale avec succès. Officiellement, la France n'a pas d'hommes au sol. Pourtant, des commandos français accompagnent des insurgés, main dans la main avec des islamistes radicaux, qui participent à la rébellion aux côtés du Comité national de transition. L'action militaire a largement dépassé l'engagement humanitaire et la simple protection des civils. En moins d'une semaine, 7 mois après le début du conflit, le régime libyen s'effondre. Les rebelles n'ont désormais plus qu'un objectif, capturer Kadhafi et le tuer. contre toute attente. Quand les rebelles parviennent à s'emparer du palais de Kadhafi, le 24 août, le dictateur n'y est pas. Non, Kadhafi s'est évaporé. Mais les rebelles ne comptent pas le laisser filer et le traquent dans tout le pays. Le 20 octobre 2011, deux mois après la prise de pouvoir par le Conseil national de transition, la chasse à l'homme prend fin dans la confusion la plus totale. Alors que les combattants du CNT sont entrés à Sirte, où Kadhafi s'est réfugié avec une poignée de fidèles, le dictateur tente de fuir. Son convoi est repéré par les Américains, puis touché par des tirs de missiles français. Des membres du CNT le retrouvent caché dans une bouche d'égout. Le dictateur est blessé par balle avant d'être conduit à l'hôpital de Misrata. Et il meurt dans l'ambulance. Pour les Libyens, c'est un soulagement. Et pour beaucoup, une grande joie. La fin de 42 ans de dictature.
À Misrata, depuis ce matin, ils viennent voir. Eux qui ont subi un terrible siège de plusieurs mois. Ils veulent voir de leurs yeux, être sûrs que c'est bien lui. Garder une preuve pour ceux qui auraient toujours des doutes. Le cadavre de Kadhafi repose sur un matelas, dans une chambre froide, là où d'habitude on entrepose la viande pour le vieux marché.
Il sera traité comme n'importe quel musulman. Il sera lavé avec respect et enterré dans un cimetière musulman, ça c'est certain.
Mais les autorités retardent l'enterrement, s'engagent à attendre les preuves des tests ADN. Le but, personne ne doit pouvoir dire que c'est un sosie du dictateur qui a été capturé, puis tué hier dans des circonstances floues. Les Russes demandent une enquête, mais l'OTAN affirme qu'elle ne savait pas qui se trouvait auparavant dans ce convoi qu'elle a stoppé avec ses missiles. Pour le nouveau pouvoir et ceux qui l'ont aidé, il faut convaincre maintenant que Kadhafi a définitivement quitté la scène.
C'est ainsi que s'achève la guerre en Libye, sans que l'armée française n'ait à signaler aucune perte humaine. L'intervention, en revanche, aura coûté 300 millions d'euros à la France, 1 million par jour. Pour la Libye, qui pleure près de 60 000 morts, le coût de la victoire est bien plus élevé. La paix tant espérée laisse place au chaos. Car ni le comité central de transition rongé par des divisions internes, ni la coalition n'ont prévu l'après-Kadhafi. À la fin du conflit, les Occidentaux se désengagent brutalement, laissant le CNT seul aux commandes. Dans la précipitation, ils publient une déclaration constitutionnelle qui fixe des délais électoraux et la passation du pouvoir entre les révolutionnaires et un état de droit. Mais la transition a été mal préparée et les élections qui sont organisées ne suffisent pas à établir un état stable et démocratique. Des dizaines de groupes armés indépendants que des intérêts tribaux, idéologiques et régionaux rendent inconciliables divisent le pays. Et la Libye sombre dans l'abîme. Alors que la France s'en va, des pays du Golfe s'engagent financièrement en Libye. Le Qatar, notamment, soutient les frères musulmans, tandis que des milices islamistes imposent leurs lois dans certaines régions. Ces milices, anciennement insurgées aux côtés du Conseil national de transition, la France les a indirectement soutenues en 2011. En gros, c'est ça, ou Kadhafi, pensait-on à l'époque, sans imaginer à quel point cette doctrine était périlleuse. En octobre 2013, le premier ministre libyen, Ali Zeidan, est enlevé par des islamistes. Des députés du Congrès général national, élus à Tripoli en 2012 lors de la première élection libre libyenne, ainsi que des juges et des journalistes, sont régulièrement assassinés par des groupes djihadistes. La Libye devient une base arrière pour les terroristes d'Aqmi et d'Ansar al-Sharia. À partir de 2015, une nouvelle organisation arrive en Libye, Daesh. En août 2016, cinq ans après l'intervention de la coalition, la fin du régime, la mort de Kadhafi, les États-Unis bombardent l'État islamique en Libye, ouvrant ainsi un troisième front contre l'organisation terroriste après les fronts irakiens et syriens. Les deux gouvernements qui coexistent depuis 2014 suite à la démission de l'Assemblée élue en 2012 sont incapables de gérer la situation. Des pans entiers du pays échappent au contrôle des gouvernements rivaux de Tripoli et de Tobrouk. À l'instabilité politique et à l'islamisme radical s'ajoutent maintenant des trafics en tout genre. Drogue et armes circulent dans la région tandis que la Libye devient un point de départ privilégié pour l'immigration illégale, notamment syrienne et africaine. Sur les côtes libyennes, les passeurs organisent un véritable trafic d'êtres humains. Parallèlement, des milices indépendantes s'accaparent les ressources pétrolières du pays qui représentent 90% des revenus de l'État. L'économie est paralysée, les exportations chutent, laissant les populations désemparées face à la pauvreté et aux violences qu'elles doivent s'affronter. Selon l'ONU, plus de 2 millions de personnes auraient besoin d'aide humanitaire en Libye. Or, l'instabilité du pays, déchirée entre différentes milices et groupes politiques, complique l'action des ONG. La mort de Kadhafi n'a pas ouvert l'ère de paix, de liberté, de démocratie dont les Libyens rêvaient et que la France leur avait promise. Face au fiasco de l'intervention française, certains comme Bernard-Henri Lévy en 2015 assurent pourtant qu'elle en valait la peine.
En 2011, vous écriviez « Quoi qu'il arrive, la nouvelle Libye sans Kadhafi sera meilleure
oui. ».
En 2015, elle est vraiment meilleure, la nouvelle
oui.
Libye
oui. Oui, elle n'est oui. pas aussi... Elle n'est pas aussi belle qu'on pouvait l'escompter, parce que l'histoire se fait pas en un jour, elle se fait même pas en quatre ans. Attendez, il a fallu un siècle à la France, enfin, il a fallu 10 ans pour faire la Révolution française. Il a fallu presque un siècle pour proclamer la République. Alors évidemment, dans un pays comme la Libye, qui n'a jamais connu d'État, qui n'a jamais eu de culture démocratique, c'est vrai qu'il faut un peu de temps, mais enfin, on est les plus mal placés, nous les Français, pour donner des leçons à la Libye, de rapidité de passage
Bernard
à la démocratie.
Lévy, sans donner de leçons, on peut constater quand même les faits, le chaos, la guerre civile, un pays livré aux milices, on a un marché ouvert à l'armement, on n'a plus Kadhafi, mais on a Daesh, à Sirte, à Tripoli, c'est vraiment meilleur.
Je crois que si les fruits de la liberté sont amers bien, aujourd'hui, il vaut mieux ça que cette espèce de chape de plomb qui pesait sur les Libyens.
L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais de desseins cachés aussi. C'est ce que suggère un rapport publié par la Chambre des communes britanniques en septembre 2016 et des emails d'Hillary Clinton rendus publics la même année. Pour les parlementaires britanniques, si Nicolas Sarkozy a pris la décision d'intervenir en Libye en 2011, c'est pour accroître l'influence française en Afrique du Nord et améliorer sa situation politique en France. Quant à Hillary Clinton, elle parle d'intérêts stratégiques, économiques, politiques, mais aussi d'un trésor en or franc et massif. Au-delà des motivations secrètes et présumées du chef de l'État français d'alors, l'intervention de la coalition reste controversée. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU avait voté une intervention ponctuelle de défense de la population de Benghazi, Londres, Paris et Washington ont mené une véritable opération de changement de régime, en appuyant par leur bombardement l'avancée de la rébellion au sol. Sous couvert du droit d'ingérence humanitaire, les puissances occidentales, menées par la France, ont tenté d'installer la démocratie en Libye à coups de frappes aériennes sans prévoir ni préparer les conséquences impliquées par la chute du pouvoir en place.
Danger, this world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out, and I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works, oh, so won't you just give it up, cause you don't understand.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'intervention de la France en Libye avec notre invité Jean-Christophe Notin. Bonjour.
Bonjour.
Collaborateur à l'Express, spécialiste des questions militaires du 20e et 21e siècle. Vous vous êtes notamment intéressé aux opérations menées par la France, en Libye bien sûr, mais aussi en Afghanistan, au Mali. Un rapport du Parlement britannique accusait Nicolas Sarkozy d'avoir pris la décision d'intervenir en Libye pour accroître l'influence française en Afrique du Nord. Bon, ça on comprend à peu près ce que ça veut dire. Et améliorer sa situation politique en France. Que voulait dire ce rapport du Parlement britannique? Qu'est-ce que ça interroge, ça? Améliorer sa situation politique en France?
Alors, le rapport lui-même est un effort louable de la démocratie anglaise de s'interroger sur des opérations, ce qu'on ne fait jamais en France. Après, pour moi, personnellement, c'est un avis tout à fait personnel, je l'ai pris quand même comme une entreprise de dédouanement de la part des Anglais, qui sont, à vrai dire, au moins sur le lancement de l'opération, tout aussi responsables que les Français. Et même plus, quand on revoit toute l'époque, David Cameron est beaucoup plus allant que Sarkozy. Donc c'est un peu aussi une manière de mettre sous le tapis leur propre responsabilité. Alors après, évidemment, il faut s'interroger sur la part de Nicolas Sarkozy dans cette opération, ça c'est un autre sujet.
Alors, plus exactement, c'est un autre sujet, mais on y viendra quand même. Concernant les motivations britanniques, vous dites oui, c'est pour se dédouaner, et vous me dites parce que eux, ils étaient vraiment à fond. Racontez-nous ça.
C'est ce qu'on oublie toujours, on a tendance à porter uniquement la responsabilité de l'opération Harmattan, donc sur Nicolas Sarkozy, on oublie qu'en fait, l'opération a été déclenchée grâce au duo Sarkozy et Cameron, et ce qui permet d'ailleurs beaucoup de mettre en perspective les vraies raisons, enfin les raisons qui ont déclenché cette opération.
Allons-y justement.
Puisqu'il faut des raisons forcément communes. On imagine mal David Cameron suivre Sarkozy à 100% sur n'importe quelle raison. C'est forcément qu'ils ont partagé ou une vision du théâtre ou des intérêts communs. Donc ça remet en perspective certaines des raisons qu'invoque d'ailleurs ce rapport, de manière d'ailleurs fort peu délicate de la part de nos amis anglais.
Alors c'est quoi les motivations des deux?
Le rapport met en évidence une écoute, on va dire, entre un conseiller de David Cameron et donc un agent des services de renseignement français. C'est assez, quand même assez indécis. Et donc, ils nous font une liste de ces différentes raisons, pointant des raisons géopolitiques, la présence de pétrole, l'influence de la France dans le monde, et donc des raisons plus personnelles, vraiment sur Nicolas Sarkozy, dans son rapport avec Kadhafi, ou dans les bénéfices qu'il pourrait tirer d'une intervention dans sa popularité, sa cote de popularité en France.
Est-ce qu'il s'agit, par exemple, pour le président français de l'époque, de compenser l'humiliation qu'a constitué la venue de Kadhafi en France en 2007?
Alors, on l'a beaucoup dit. C'est pour moi une vision, que je dirais, infantilisante, pour dire des choses, des déclenchements des opérations en France et dans le monde. On a quand même du mal à imaginer un président arriver à motiver toute une armée, toute une administration, et donc David Cameron, et donc ensuite l'Europe et l'ONU, à déclencher une opération uniquement sur une propre humiliation qui, au demeurant, est à mettre en perspective avec les humiliations que Kadhafi a infligées à différents chefs d'État. On oublie toujours, certes, il a été reçu dans la pompe à Paris, mais Kadhafi a été reçu là exactement de la même façon, même en pire, à Madrid et à Rome. Et de la même façon, Berlusconi a pris une rebuffade complète sur le point de vue différents contrats, et on n'a jamais dit Berlusconi a voulu partir en guerre contre Kadhafi pour une raison d'humiliation. Donc c'est pour moi voir les choses, comment dire, personnifier les choses à outrance. Ça a peut-être compté dans la motivation de Nicolas Sarkozy déclencher cette opération. Mais pour moi, ça ne peut pas être la raison centrale.
Alors, il y a une autre raison qui pourrait être invoquée aussi, à cause des soupçons de financement de campagne électorale. Je dis bien des soupçons, financement présumé, occulte présumé, hein, parce que l'affaire n'est pas jugée. Ça rentre en ligne de compte, ça aussi, non?
Alors là, vraiment, je n'ai aucun argument. Je ne peux avoir qu'un petit avis tout à fait personnel. Et j'ai toujours trouvé que de la part de Nicolas Sarkozy, au contraire, ça aurait été un argument de ne pas déclencher cette opération, parce qu'il aurait pu se penser que les Kadhafi, la première chose qu'ils allaient faire, c'était de sortir ces fameux documents prouvant Bon, alors après, une fois de plus, je n'ai strictement aucun élément là-dessus, donc je ne peux me fier qu'au résultat judiciaire, s'il y en a un jour, de cette affaire.
Bernard-Henri Lévy, quel rôle il a joué réellement ?
Alors, nous sommes dans le deuxième volet d'une interprétation que je trouve très abusive de cette campagne. Il a joué un rôle évident de promotion, mais vis-à-vis des médias, beaucoup plus que sur Nicolas Sarkozy. Il a eu toujours tendance, et les médias, la presse en général, a eu tendance à dire que l'opération était déclenchée parce que BHL est allé le dire à Nicolas Sarkozy. On oublie toujours qu'au contact des Libyens, et en permanence durant ces 7 mois, et même un petit peu avant, il y a eu les diplomates français, il y a eu la DGSE, il y a eu les forces spéciales qui étaient là en permanence, qui alimentaient en permanence le pouvoir. Donc en fait, BHL n'est venu que conforter à la limite une vision que tous ces services envoyaient à Nicolas Sarkozy.
Bien, on va sortir alors de la petite histoire et des personnages pour entrer dans la grande, si je puis me permettre. Donc les raisons géopolitiques d'intervenir en Libye, quelles sont-elles et quelle est la pertinence de ces raisons ? Pourquoi, un moment, un pays qui s'appelle la France, avec l'Angleterre, décide d'intervenir en Libye?
Alors, il faut bien voir que la Libye n'est pas une zone traditionnelle d'intervention, d'influence française. Hein, ça a toujours été extérieur au précaré français. Alors, j'ai cherché toutes les raisons. On a beaucoup invoqué, évidemment, le pétrole, qui est un peu la marotte de tous les experts. Dans tous les conflits, on sort la raison pétrolière. Il se trouve qu'en Libye, le scoop n'est pas sur le fait que Kadhafi avait déjà décerné tous les marchés à toutes les entreprises, donc c'était fait. Mais vous avez tous les dirigeants des entreprises françaises concernées par ces contrats qui ont fait le pied de grue devant le bureau de Nicolas Sarkozy pour surtout le dissuader d'intervenir. Les contrats étaient faits. Donc il disait surtout, monsieur le président, n'y allez pas. Kadhafi, la première chose qu'il a à faire, c'est remettre en cause tous ces contrats. Donc, personnellement, j'ai toujours écarté cette raison ou pétrolière ou géopolitique. La raison, pour moi, qui est restée vraiment in fine au bout de mon analyse, au bout de toutes ces entrevues, j'ai quand même eu la chance de rencontrer absolument tous les acteurs de cette opération, de déclenchement.
Pour votre livre, votre enquête, absolument.
Donc vous pouvez faire quand même à la fin une espèce de dénominateur commun de la raison. Et la raison vraiment centrale qui ressort, c'est la raison de la crainte de Nicolas Sarkozy de laisser la trace dans l'histoire, surtout à un an de l'élection présidentielle, de la commission d'un massacre, ou que ce soit à Benghazi ou en Syrie. Il a eu beaucoup peur que Kadhafi, dans la folie qu'il lui prêtait, commette un massacre en Cyrénaïque. Un massacre que les Français n'auraient pas empêché alors qu'ils en avaient les moyens.
Donc c'est une intervention humanitaire ?
En quelque sorte, oui, oui. La raison vraiment centrale, je dirais le moteur central, l'impulsion centrale, première, ce serait d'empêcher un massacre.
D'ailleurs, il suffit d'écouter le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Alain Juppé, pour s'en convaincre.
Bonsoir Guillaume Daret. Le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé a été clair, la France est prête pour une intervention.
Tout est prêt pour une intervention. Ce sont les mots d'Alain Juppé prononcés ici à Matignon. Tout est prêt. Mais la réunion qui s'annonce absolument décisive, évidemment, selon les termes même du ministre des Affaires étrangères, c'est cette réunion demain à Paris, à l'Elysée, un sommet Union européenne, Ligue arabe. Décisive cette réunion parce que les décisions, les annonces des officiels libyens qui évoquent un cessez-le-feu seront examinées d'extrêmement près. Décisive aussi, Laurent, parce que la France souhaiterait associer des pays de la région à cette intervention. Pas question, en revanche, Paris l'a rappelé aujourd'hui, que l'OTAN y participe. Alain Juppé, qui était ici à Matignon cet après-midi avec François Fillon, il a rencontré le président du Sénat, de l'Assemblée, les responsables des groupes parlementaires pour les informer de la situation. Et c'est vrai qu'à la sortie, on a senti un vrai consensus politique. Le socialiste Jean-Marc Ayrault a salué une décision courageuse dans le vote de la résolution. Pour François Bayrou, il s'agit d'un succès diplomatique pour la France.
Jean-Christophe Notin, quel a été le rôle de la France sur place? Est-ce qu'elle a vraiment dirigé les opérations dès lors qu'elles ont commencé en Libye?
Oui et non. La France amorce les opérations. Ce sont ces chasseurs-bombardiers qui frappent les premiers. Ensuite, les Américains jouent un rôle considérable qui a été complètement oblitéré pendant une dizaine de jours. C'est eux qui frappent la Libye, qui détruisent tous les systèmes solaires indispensables au début de la campagne. Donc ils jouent un rôle en fait considérable, les premiers moteurs. Après, il y a ce problème de l'immixtion de l'OTAN, dont Nicolas Sarkozy ne veut pas. Nicolas Sarkozy voulait un couple franco-britannique. Et manifestement, les Britanniques se sont vite rappelés à leur tropisme américain. Et donc c'est l'OTAN qui a pris la main. Et donc les Français ont eu un rôle moteur, parmi les premiers, on va dire. Mais ils ne sont pas les premiers, ce ne sont pas eux qui mènent les opérations, c'est l'OTAN. La voix de la France compte beaucoup, parce que c'est le premiers, je crois, contributeurs. Mais les Américains réservent, c'est le fameux leadership from behind, où en fait, par la voie des ravitailleurs, par la voie de différents matériels indispensables à mener la campagne, en fait, ils tirent les fils.
Vous parlez de livraison d'armes faites par la France aux islamistes pendant ce conflit libyen. À ce moment-là, les autorités françaises agissent en connaissance de cause parce que la menace islamiste, elle ne date pas d'hier, elle est antérieure à ce conflit en Libye.
Alors, pour être très précis, l'état-major des armées vous dirait que livraison d'armes, il y a eu aux Libyens, aux rebelles libyens,
bien sûr,
pas aux islamistes. Il se trouve que parmi les rebelles libyens, ceux qui étaient les plus efficaces du point de vue militaire, il faut le dire, c'était les islamistes, ex-fondamentalistes du groupe GICL, qui a été un des premiers contributeurs d'Al-Qaïda, hein, il faut dire les choses un peu clairement. Maintenant, il a été jugé de la part des militaires et des politiques que ces islamistes, à cette époque-là, ne représentaient pas un danger majeur.
Oui, enfin, c'est ce qui se passe toujours, en tout cas dans les guerres modernes, les guerres d'intervention. Aujourd'hui, on voit quand même que Daesh est installé, pas qu'en Syrie, mais aussi en Irak, à Mossoul notamment, et entre autres. Et on s'aperçoit que des interventions occidentales sur ces terres-là, eh bien, construisent peut-être, même certainement, le terreau de cet islamisme-là. Et on retrouve ça, parce qu'aujourd'hui, en Libye, les islamistes sont aussi... C'est l'un de leurs terrains... Je vais pas dire terrain de jeu, surtout pas, mais l'un de leurs terrains d'action, quand même.
Alors, une fois de plus, pour être très clair, je dirais pas que ça constitue, ça contribue. Ça alimente ce fléau djihadiste terroriste. Certain, ces interventions créent un tourment, créent un chaos dont elles profitent comme un cancer. Elles viennent,
évidemment,
viennent toujours s'installer sur des zones déstabilisées. Donc, une intervention, évidemment, extérieure déstabilise cette zone. Maintenant, je suis toujours très réservé, très, comment dire, compatissant à l'égard de nos autorités politiques. Ce sont des décisions très, très difficiles à prendre, le déclenchement d'une guerre. Et vous avez un parallèle quand même qui est tout à fait sidérant entre la Libye et la Syrie. On intervient en Libye, il y a le chaos. On n'intervient pas en Syrie, il y a le chaos. Donc ça relativise beaucoup les interventions des uns et des autres. Faut-il intervenir, ne faut-il pas intervenir? Moi, je suis toujours très pondéré et mesuré à l'égard de nos autorités.
Alors, intervenir ou pas, parfois au nom de ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Alors le droit d'ingérence, ça fait débat encore aujourd'hui. On va écouter une conscience française, Robert Badinter, qui parle justement de ce droit d'ingérence. Écoutez, c'est vraiment intéressant.
Je suis très prudent quand il s'agit de ce que l'on appelle le droit d'ingérence. Je considère que ce n'est pas une bonne dénomination, que ça n'a jamais été reconnu, que le terme de droit d'ingérence met hors de soi la quasi-totalité des pays du tiers-monde, parce que ce qu'ils disent, c'est que sous couleur de droit d'ingérence, le droit de m'ingérer dans les affaires d'autrui, cela n'est qu'une dialectique du fort au faible, une sorte de politique de la canonnière moderne, et qu'on n'a jamais vu quelqu'un dire « nous allons exercer le droit d'ingérence à l'encontre de la Chine pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exactions ou de crimes commis au Tibet », pas plus qu'on oserait le faire encore maintenant en Russie. Donc l'idée du droit d'ingérence « j'ai le droit de m'ingérer dans les affaires d'autrui » est à mon avis un concept qui n'est pas celui qui doit être utilisé.
On devrait dire droit d'ingérence humanitaire, d'ailleurs. Mais comme vous me disiez au départ que c'était pour éviter un massacre en Libye, je remets ça sur le terrain du droit d'ingérence humanitaire. Que pensez-vous de ce que vient de dire Robert Badinter?
Alors, c'est une conscience que je respecte tout à fait. Moi, je ne fais que me fier à ce qui est voté ou non. Le droit d'ingérence, entre guillemets, la responsabilité de protéger, a été voté par l'ONU en 2005. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été voté par le Conseil de sécurité, mais par l'Assemblée générale, donc ça lui donne une valeur un peu moindre. Maintenant, c'est aux États d'examiner et de se mettre d'accord sur ce qu'ils ont voté ou non.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street. My collar to
the cold and damp, where my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
L'intervention de la France en Libye avec notre invité Jean-Christophe Notin. Vous avez travaillé sur les interventions françaises, pas seulement en Libye, mais aussi en Afghanistan et au Mali. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le Mali, parce que c'est aussi intéressant, le Mali. Donc ça fait partie du bilan de François Hollande, le Mali. Hein. Je voudrais savoir quels ont été les bénéfices et quels sont encore les bénéfices de cette intervention.
Sur le terrain, vous voulez dire?
Sur le terrain, pour si on intervient au Mali, c'est pour lutter contre les islamistes. On est bien d'accord. Est-ce que c'est efficace? Comment ça fonctionne?
C'est ce qui est redoutable avec ces opérations, c'est évidemment la durée, le temps qui passe. Ça a été très efficace sur la première année, on va dire. Il est évident que les islamistes avaient été, non pas éradiqués, mais enfin largement éliminés et repoussés surtout hors des frontières de la Libye. Donc le Mali avait bien été libéré, ça avait été l'objectif premier donné par François Hollande. Maintenant, avec les années qui passent, forcément, ces groupes reviennent, se réinfiltrent, se remettent au milieu de la population. Et donc, on se retrouve avec des problèmes qui peuvent prendre de plus en plus de consistance et de reposer à nouveau un problème de qu'est-ce qu'on va faire au Mali.
Et en Afghanistan, là, alors que c'est plus cadré, hein, parce que là, la France n'est pas seule en Afghanistan, son intervention, encore une fois, dans le cadre de ce qu'elle pouvait faire, a été efficace également.
Alors la France en Afghanistan, elle avait quand même un rôle assez accessoire.
C'est pour ça que je vous dis ça, mais...
On a tenu une petite zone de Kaboul, et donc la fameuse Kapisa sur Obi, c'était une petite zone de passage de fondamentalistes. Mais c'était un rôle très subalterne en comparaison de l'investissement de l'OTAN, de l'Amérique, et même des Anglais, voire même des Allemands. On avait quand même un rôle relativement mineur.
Au bout du compte, comment est perçue la France aujourd'hui dans sa capacité à peser sur les affaires du monde ? Est-ce que c'est une petite grande puissance, une moyenne puissance? Qu'est-ce que c'est la France aujourd'hui par rapport à sa capacité militaire?
Alors je crois que le Mali est le très bon exemple. Les Américains ont été estomaqués, j'en ai le témoignage quasiment toutes les semaines. Des chercheurs me demandent mais comment les Français ont fait cette opération. Maintenant les Américains ont évidemment conscience que le Mali est un petit pays. Ça a quand même été une opération importante, mais quand même très mesurée. C'est 5000 hommes. Oui. C'est quand même pas le débarquement en Normandie. Donc tout ça est très mesuré. Donc la France apparaît comme une puissance encore militairement première, mais évidemment sur des conflits de moindre importance que la Syrie-Irak. La France sera incapable de résoudre seule la Syrie-Irak.
Bien, merci infiniment Jean-Christophe Notin. Je rappelle le titre de votre livre, La vérité sur notre guerre en Libye, chez Fayard. C'est une somme, hein, c'est une somme de 573 pages. Voilà, donc bonne lecture à tous.
Merci.
Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'intervention française en Libye, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.